Oui, bonsoir Daniel. Je t'appelle parce que là, il m'arrive un truc absolument incroyable. Il est 20h05, ça fait 5 minutes que Sarko parle, et je viens d'ouvrir mon portefeuille et je viens de trouver 20 euros à l'intérieur qui n'y étaient pas ce matin. Il est vraiment trop fort. Salut.
Ouais, je suis en train de regarder l'intervention là de Nicolas Sarkozy. Je me faisais une petite réflexion comme ça. Les jours d'élection, je crois que la France qui se lève tôt, elle ferait mieux de rester couchée, quoi. Voilà, allez, bonne journée, salut.
J'ai suivi l'intervention de notre président hier soir à la télé. Alors, une phrase de lui m'a frappée. Il a dit « Je ne suis pas pour la pensée unique ». C'était plutôt risible puisqu'il était le seul à l'exprimer, sa pensée. En effet, il n'a pas laissé à ses deux interlocuteurs la moindre possibilité de contradiction. PPDA et Arlette Chabot, qui l'interviewaient, étaient comme scotchés, figés, anesthésiés. On aurait dit deux collégiens en accusation lors d'un conseil de discipline. C'était pitoyable. Oui, hélas, Nicolas Sarkozy est toujours autant omnipotent de certitude et d'arrogance. Allez, tenons bon la rampe.
Je vous appelle, je regardais l'intervention de Sarkozy hier soir et il ne fait pas rigoler, il me fait de la peine, mais bon. Je le compare à un camelot, là, ces gens qui vendaient de la vaisselle sur les marchés il y a quelques années, puis qui vous proposaient un plat par-dessus les 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, puis qui vous rajoutaient, allez, tiens, un service à café. Et puis si les acquéreurs, ils traînaient à se décider, ben, ils balançaient tout par terre pour faire du bruit, puis ça faisait venir d'autres clients, et en avant Guingamp. Enfin, c'est du cirque, quoi, du théâtre, mais... Est-ce qu'on peut s'en passer? Bah oui, je crois bien, j'en suis sûr, mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens sérieux qui courent. Allez, bonne journée, ciao Mermet.
Dis donc camarade, t'as pas entendu? C'est le salon de la plaisance. C'est vachement important la plaisance. 15% de croissance par an. Qu'est-ce que tu attends pour aller choisir ton yacht? Comme ça, tu pourras, comme Monsieur Bolloré, avoir l'honneur de recevoir Monsieur Sarkozy, le pauvre. C'est pas avec ce qu'il gagne qu'il peut se payer des vacances. Comment? T'as pas 20 millions d'euros? Même pas 15? Mais secoue-toi, bon Dieu, puise dans tes économies ou fais des heures supplémentaires. En tout cas, embête pas ton patron pour qu'il t'offre une augmentation avec ses réductions d'impôts. Sinon, comment il le paiera, lui, son yacht?
Salut les AMG, salut Daniel. Le président Bip, contre l'avis de plus de 60% de citoyens français, a annoncé son intention de ne pas organiser de référendum pour le traité modificatif de Lisbonne. C'est vrai, après tout, un mini-traité de 230 pages, c'est tout mini-rikiki, pas besoin de s'en occuper, puisque le président, bip, le fait pour nous. Eh bien nous, contre l'avis de monsieur le président, bip, nous avons décidé de nous en occuper, et plutôt deux fois qu'une. Oui, d'accord, mais c'est qui, nous? Eh bien nous, c'est vous, ou en tout cas une partie d'entre vous, puisque déjà plus de 1600 plaignants s'organisent sur le site www.29mai.eu, pour porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme pour contraindre le président BIP à organiser un référendum. Une plainte, ok, c'est bien. Des plaignants, ouais, d'accord, c'est pas mal. Mais l'avocat, hein, il est où l'avocat? Ben justement, et c'est pour ça qu'on voulait vous parler. L'avocat s'est réglé aussi, nous en avons un. Et croyez-nous, c'est pas de la gnognotte. Et la plainte, hein, la plainte, c'est où? C'est comment? C'est quand? La plainte? La plainte contre la décision de monsieur le président, bip, de ne pas organiser de référendum. C'est sur www.29mai.eu et c'est pour le 13 décembre. Alors vite, ça urge. Salut les AMG, salut Daniel, c'était l'heure de Dordogne.
C'en est trop. Pour Léa et Sarah, s'il vous plaît, vos parents, vos grands-parents, vous n'avez pas honte d'être français? L'une a 21 mois, l'autre 3 ans et demi, et sont dans un centre administratif de rétention depuis 25 jours, entourés de barbelés, avec leurs parents, qui sont venus en France pour donner un avenir à leurs enfants. Leur seul tort, ils sont albanais. France, réveille-toi. On en a marre de ce régime. J'ai 67 ans. Je suis une fille de déportée. Je ne peux plus accepter ce qui se passe dans mon pays depuis quelques mois. J'ai travaillé pour plus de liberté, de solidarité, de justice et de paix. Français, réveillez-vous. Je vous attends. J'ai 67 ans. Je suis de tout cœur avec cette jeunesse étudiante qui se bat et ces travailleurs cheminots. Demain, ils seront nos héros.
Hier, un gamin de 16 ans, au casier judiciaire vierge, a été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir fauché des paquets de bonbons lors des émeutes à Villiers-le-Bel. Hier aussi, M. Denis Gauthier-Sauvagnac, qui qui a volé des centaines de millions d'euros est ressorti libre de sa garde à vue. Il pourra, comme d'habitude, passer le week-end dans son somptueux manoir normand. Le gamin de banlieue, lui, pleurait et appelait sa maman quand on lui a fait, quand on lui a mis les menottes, qu'on lui a fait quitter le tribunal pour l'emmener directement en prison. Forgeard, Lagardère, Gauthier Sauvagnac d'un côté, un gamin des cités de l'autre. Mais où y sont les Victor Hugo, les Zola, les intellectuels d'aujourd'hui pour dénoncer ça à la une des journaux ou des télévisions? Mais réveillons-nous, nom d'un chien.
Eh ben nous voilà. Les Zola et les Victor Hugo d'aujourd'hui. On continue quand même après tout ça. Merci en tout cas pour vos messages très nombreux, très furieux, rigolos aussi, pourquoi pas. Dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, chers AMG. Aujourd'hui donc, oui, on continue avec la famille Vangjouche, Gloria et Ali et leurs enfants Léa, 18 mois, et Sarah, 3 ans, enfermés, détenus, retenus, oula, que dis-je, non pas détenus, mais retenus dans le centre de rétention administrative de Lyon. On a passé l'heure hier avec eux. Au bout, ils en étaient à 30 jours, je crois, hier. Et vous savez que maintenant, la rétention, c'est 32 jours. Ils auront attendu 32 jours enfermés dans ce centre de rétention avant de, eh bien, on va voir ce qui va leur arriver aujourd'hui. Pourquoi cette affaire? C'est une affaire parmi d'autres. Des quantités d'histoires semblables se déroulent en France ces derniers temps, ces dernières années. Et le réseau Éducation sans frontières, vous le savez, se bat de façon souvent très très modeste, sans forcément le chercher à médiatiser ni à faire un grand tapage. C'est un portrait aussi de cette France qui résiste, une France qui n'est pas forcément une France d'intello, de Zola et de Victor Hugo, une France toute ordinaire, on va dire, mais pour qui l'expression au revoir les enfants dit quelque chose de profond. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, ces gens de RESF et les gens du coin et les gens du village où séjournait cette famille depuis 2 ans, eh bien, ils ont dit au revoir les enfants. C'est notre sujet, le deuxième volet donc de cette histoire. Aujourd'hui, auparavant, encore quelques messages parmi les nombreux messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Je voulais vous informer d'une marche de soutien contre l'expulsion d'une famille algérienne installée en France depuis 3 ans et dont les enfants sont scolarisés en maternelle et au collège. Donc cette marche aura lieu samedi 1er décembre à 10h30. Rendez-vous au collège Maxime Marchand du Leroux-Bottereau, donc c'est à 15 km au sud de Nantes. Nous étions déjà plus de 300 à la précédente marche, celle du 27 octobre, et il faut vraiment se mobiliser là, contre cette immigration jetable. Donc voilà, rendez-vous samedi 1er décembre au Leroux-Bottereau, près de Nantes. C'est Anne de Saint-Julien. Voilà, merci, au revoir.
Bon, l'argent passe les frontières. Les marchandises passent les frontières. Bon, d'accord. Mais les gens, vous vous rendez compte, tous ces gens, on serait trop serrés s'ils venaient tous. On serait trop serré. Alors l'argent, oui, les gens, non, l'argent, oui.
Salut à toutes et tous, à Toulouse, vendredi 30 novembre à 21h. Concert de soutien à José Alberto, 3 ans, et Stéphanie, 5 ans, nés en France, scolarisés à l'école Courrèges, et leurs parents vénézuéliens qui ne demandent rien d'autre que pouvoir travailler et voir grandir leurs enfants dans le pays où la famille s'est construite depuis 2000. Voilà, donc venez nombreux, salle Sambarésie, vendredi 30 novembre à 21h. Et mercredi 12 décembre à partir de 17h30, rassemblement du réseau Éducation sans frontières de Haute-Garonne, à la préfecture de Haute-Garonne, donc place Saint-Étienne. Les différents comités locaux iront remettre les pétitions de soutien aux familles menacées d'expulsion du territoire français. Donc mercredi 12 à partir de 17h30, place Saint-Étienne devant la préfecture. Au revoir.
Bonjour Daniel et son équipe. Aujourd'hui, jeudi 29 novembre, les forces de l'ordre ont pénétré au sein du lycée Dumont-d'Urville à Caen, en Normandie, appelé par la direction dans la crainte d'un blocage. Tout est mis en œuvre pour faire plier les élèves contestataires face à la loi Pécresse qu'ils rejettent. avec la complicité de la rédaction de SR3 Normandie, qui n'a pas estimé utile d'en informer la population dans son édition du soir. La présence des forces de l'ordre au sein d'un établissement scolaire n'est pourtant pas un fait mineur. La France est malade, Daniel. Elle ne trouve pour seule réponse aux interrogations légitimes des jeunes, des travailleurs pauvres, des étrangers pauvres, que la matraque et la répression policière. Le pétainisme du XXIe siècle est en marche. C'était Pierre de Caen. À bientôt et bravo.
Allez, salut Daniel et l'équipe. Bon, c'est Étienne d'Aurillac. Alors, j'imagine que tu as eu pas mal de messages de tous les copains aujourd'hui. Parce que Zoura Betenguis, deux copains sans papier d'ici, se sont retrouvés interpellés. Puis au centre de rétention de Lyon, des dizaines de flics, 10 bagnoles, les gilets pare-balles, les chiens, tout. Pour deux pauvres sans papier cachés dans une ferme, des gens adorables qui n'ont jamais fait de mal à personne. C'est lamentable. Donc, au rassemblement samedi matin à Aurillac, à 10h au marché. C'est important. Salut.
Je tenais à vous informer que nous avons aussi le triste privilège d'avoir notre centre de rétention familiale en Bretagne, à Rennes, qui s'est ouvert au mois d'août dernier. Je suis visiteuse dans ce centre avec une amie et on découvre des choses assez hallucinantes sur la façon dont on traite les étrangers dans notre beau pays. Et nous avons ouvert un blog pour informer, parce qu'on pense qu'il y a cruellement un manque d'informations et nous vous remercions d'en parler et de relayer l'info. Donc voilà, notre blog s'appelle Sans Patrie et je vous mets les coordonnées par mail et j'espère que... je sais que l'émission d'aujourd'hui également est consacrée au centre de rétention et je vous en remercie. Au revoir.
Bonjour. Ce vendredi 30 novembre à 20h30, à l'ambassade jurassienne, anciennement l'hôtel de la Poste à Nansou-Sainte-Anne, dans le Doubs, près des sources du Lison, aura lieu le repère de la bâche J'y suis. Le thème abordé sera parfums, jouets, chocolat, etc. La face cassée de certains achats de Noël. Bonne journée.
Oui, bonjour à tous, c'est Christian. Alors, comme tous les premiers lundis du mois, nous organisons notre repère au Petit Bistrot à Mornant dans le Rhône, entre Lyon et Saint-Étienne. Donc c'est Place des Platanes à Mornant dans le Rhône, et c'est ce lundi 3 décembre à 19h. Alors ce soir-là, on va revenir sur le Grenelle, on va reparler du Grenelle, voir si ce Grenelle, c'est pas une arnaque. Et puis, on va discuter du contre-Grenelle avec les propositions. Alors, on vous attend nombreux pour débattre de ce sujet brûlant et voir si on s'est pas fait rouler dans la farine. À lundi soir, 3 décembre à 19h.
Moi, quand je suis arrivée, je savais même pas que ça existait, le centre de rétention, parce qu'il est à proximité de l'aéroport, donc voilà. Ben, c'est un bâtiment, c'est des algécos, plus ou moins, entouré d'une enceinte avec des barbelés. Je connaissais pas ça de la France, et franchement, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait vraiment.
Mais je crois que ce qui s'est passé à Fontaine-Saint-Martin, c'est un peu ça aussi. Pour bien des familles, ça a été une surprise de voir qu'on en était là aujourd'hui en France. Et je crois qu'il y a une prise de conscience assez violente, parce qu'on ne s'imaginait pas tout ça. D'expulser des gens qui avaient une forte volonté d'intégration et qui, pour qui tout se passait bien, je crois que ce n'est pas le désir des Français.
Salut, c'est Daniel Mermet là-bas, j'y suis avec Pascal, Pascal, Yellow, Léa, Sarah. Au revoir les enfants.
Flight number 2, arriving from...
Mathis, tu manges des gâteaux?
Mathis.
Bonjour Mathis. Toi, t'es bien plus grand que Sarah?
Oui. Notre maîtresse, elle nous a expliqué, nous a dit qu'elle a été renvoyée, mais... elle a encore une chance et maintenant on fait des rassemblements pour essayer qu'elle revienne dans cette école.
Je crois que c'était un mardi. Elle nous a expliqué qu'il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah qui était venue dans un pays avec son papa et sa maman.
Et puis après, s'ils ne reviennent pas avec leur deuxième chance... Ils ont la chance de revenir à cette école.
Mais s'ils n'arrivent pas à revenir, et ben ils vont retourner dans leur pays. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et on vous a dit où elle était, Sarah, pour l'instant ou pas?
Quelque part, dans une prison.
Prison.
On s'est dit qu'on voudrait bien que Sarah reste. Du coup, on a demandé à notre maman de savoir si elle pouvait rester.
Moi, et pourquoi vous aimeriez qu'elle reste, Sarah?
Parce que moi, en voyant son cahier, on dirait qu'elle comprend notre langage. Elle avait très bien. Et aussi parce que j'imagine, moi, si j'étais renvoyée dans un pays, donc ce serait triste.
Ben oui.
Qu'elle avait des très bien, des biens.
Mais pourquoi pas?
Moi, je dirais qu'elle pourrait revenir à l'école.
D'accord. D'accord, bah alors on va essayer de demander qu'elle revienne dans votre école.
Ouais, ce serait bien gentil, hein, quand même. Ce serait bien gentil qu'elle reste dans notre école.
Notre boulot à nous, les journaleux, en principe, ben, c'est d'être un miroir de ce pays chaque jour, de refléter, de raconter, de vous dire qui vous êtes, enfin, de montrer aux uns comment vivent les autres, de façon à ce que, grosso modo, on ait une idée du pays dans lequel on vit, de ce qu'ils font les gens, de ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ils croient, ce qui les indigne, ce qui les fait rigoler, ce qui les fait pleurer, etc. Quand on entend ce qu'on vient d'entendre, on s'aperçoit qu'on se trompe énormément, nous autres, les journalistes. Ces enfants, qui sont aussi pertinents, aussi conscients, qui ont pigé, qui ont 7 ans, 8 ans, sont les enfants de l'école de Fontaine-Saint-Martin, un patelin au nord de Lyon, 2124 habitants exactement, on vient de vérifier. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une drôle de France, celle du réseau Éducation sans frontières. D'ailleurs, on va voir que la plupart des gens de ce village, de cette petite ville, comme de Lyon, comme d'ailleurs, ne sont pas forcément liés à ce réseau d'éducation sans frontières, attachés à ce que au moins les enfants des sans-papiers aient droit à cet enseignement qui est inscrit dans la loi. Au moins que ces enfants, selon la loi, en accord avec la loi de l'ordonnance de 1945, que je rappelle, l'étranger mineur de moins de 18 ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22, eh bien, ne soit pas traité comme le sont aujourd'hui les enfants. Alors, je dis tout ça parce que c'est, vous allez voir l'indignation, la surprise, l'étonnement de cette France, je ne veux pas dire profonde, non, on peut dire la France tout court, eh bien on la sent pas d'habitude, on la montre pas d'habitude, on attend qu'elle soit plus quelque chose de plus fort se passe, d'excessif, de violent, etc. Ça fait partie aussi de notre boulot. Là, c'est une autre France qu'on va sentir. C'est une autre indignation, c'est une tristesse, quelque chose qui ne va pas profondément, qui ne va pas avec ces lois sur l'immigration, sur les sans-papiers, la façon de les traiter, notamment dans ces centres de rétention. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces enfants dont on parle là? Léa, 18 mois, et Sarah, 3 ans. C'est l'histoire de la famille Ali qu'on a présentée hier, qui était en rétention depuis le 16 octobre. Ce sont des gens d'origine albanaise qui ont été arrêtés alors qu'ils devaient passer au tribunal le 13 novembre. La famille était en train de rassembler les éléments nouveaux justifiant une nouvelle demande d'asile. Ils étaient arrivés en France en janvier 2006 au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Fontaine-Saint-Martin où nous sommes avec les enfants. Et à la suite d'un changement de régime en juillet 2005, Monsieur Ali, qui était garde du corps, a été blessé dans un attentat contre un député socialiste, celui qui l'accompagnait. Monsieur Ali en a gardé des séquelles du système auditif. Il a été ensuite menacé de mort et son frère, qui faisait etc., etc. Enfin, des gens qui sont menacés. C'est-à-dire que ce qui est clair, ce qui est avéré, l'avocate qui les défend le disait hier, le retour en Albanie les met leur vie et leur sort en péril. Voilà avec qui nous sommes. C'est difficile d'être avec eux. C'est par téléphone qu'on va communiquer dans ce centre de rétention parce que les journalistes n'y sont pas désirables, même si hier Pascal Pascariello est, vous l'avez entendu, est entré malgré tout dans ce centre. Vous pouvez réécouter l'émission d'hier. Voilà où nous en sommes. On en est à 32 jours, c'est le maximum de retenue dans ces centres. La famille est à l'intérieur de ce centre et nous à l'extérieur. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Au revoir les enfants.
Je suis du comité de soutien. Donc,
bon, Philippe, je pose ma fille.
Ok, ouais. C'est les grandes sections. Et la maternelle, c'est là-bas.
C'est plus loin. D'accord, c'est là où était Sarah.
C'est là où était Sarah, voilà.
Vous connaissiez les parents de Sarah ?
Ben oui, oui, bien sûr. Enfin, un petit peu du fait du comité de soutien, quoi.
Vous attendez vos enfants ?
J'attends ma fille.
D'accord.
Voilà. Et après, je l'amène avec moi pour se montrer, en espérant que ça nous permette d'atteindre l'objectif, hein, parce que l'objectif, c'est que, un, ils soient libérés du centre de détention. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire?
Racontez-moi un peu.
Ben, l'histoire, ce sont des gens qui sont venus d'Albanie il y a à peu près 2 ans. La mère était enceinte de 8 mois, une petite fille de 1 an et demi. Et lui, il avait des menaces sur sa vie en Albanie de par son métier. Il était garde du corps d'un homme politique. Son frère s'est fait tuer. Donc, est-ce que c'est des mafias? On ne sait pas trop exactement. Donc, lui, devant cette situation, après avoir survécu, il a décidé de venir en France. Et depuis, il s'est retrouvé au CADA. C'est un foyer de demandeurs d'asile sur la commune. Il a fait une demande de droit d'asile, hein, pour avoir le statut de réfugié politique, qui a été une première fois refusée. Et dernièrement, donc, les policiers sont venus le 16 octobre le prendre, alors qu'il était en cours de préparation d'un nouveau recours, devant de nouveaux faits, parce que sa mère s'est faite agresser sur place.
En Albanie ?
En Albanie, voilà. Et donc, devant cette situation, nous, le fait que, un, ils soient enfermés avec des enfants en bas âge, deux, leur situation quand même mérite peut-être qu'on s'y attarde et qu'on les mette pas dans les statistiques des 25 000 personnes qu'on veut renvoyer sans discernement à la frontière, comme ça. On a décidé de se réunir à plusieurs à Fontaine-Saint-Martin.
Vous êtes père de famille ? Une petite fille qui a quel âge ?
Qui a 8 ans et demi, voilà. Qui n'est pas du tout dans la même classe que Sarah, hein, mais bon, on est quand même alerté, à la fois en tant que citoyen et aussi en tant que parent d'élève, parce que les enfants qui sont à l'école et dans la même classe que Sarah, ils se posent des questions. C'est pas normal. On aurait pu très bien les laisser dans leur foyer au CADA, d'autant plus qu'ils allaient peut-être avoir un appartement. Et puis que les recours vis-à-vis du statut de réfugié se prolongent et aillent jusqu'au bout. Ils étaient en voie d'intégration. Je vous embrasse.
C'est le comité de soutien.
C'est le comité de soutien.
D'accord. Donc voilà. Tous réunis devant l'entrée de la maternelle, c'est ça.
C'est là, ouais.
En fait, l'école où était Sarah. Vous êtes les deux enseignantes de ce groupe scolaire, voilà, qui est à Fontaine-Saint-Martin.
Oui.
C'était la deuxième année qu'elle était scolarisée dans l'école, chez les petits. Elle était très bien intégrée dans l'école, très présente, et ses parents également. On ne l'a plus revue du jour au lendemain. Voilà. Les enfants, ils se posent des questions. Pourquoi n'est-elle plus là? Pourquoi on met sa chaise, etc.
Qu'est-ce que vous avez expliqué à vos élèves alors?
C'est difficile d'expliquer.
Oui, en maternelle, c'est très difficile.
Les enfants nous ont interrogés parce qu'ils avaient des frères et sœurs aussi dans la classe de Sarah.
Nous, c'est la peur qu'il lui arrive quelque chose, que dans son pays, elle se fasse taper. Ou... C'est plus du côté de la peur, de l'inconnu, qu'est-ce qu'elle va retrouver. Et puis en plus, dans la classe, on se pose des questions parce qu'il y a aussi un autre petit enfant qui est dans une situation aussi pas facile. Donc on a aussi peur qu'il parte à son tour.
C'est violent, je pense que c'est en tant que parent aussi. Les gens réagissent, la communauté de Fontaine-Saint-Martin réagit, quelles que soient les opinions des gens, quelles que soient...
C'est humain. De les voir à travers la vitre, là, en train de nous faire un malheureux coucou... entouré de dizaines de policiers, hein, comme lundi on a vu.
Lundi, vous avez vu ça? Oui, il y a eu un parrainage devant le centre. Donc
devant le centre de rétention, il y a eu un parrainage. En fait, là, c'est cas exceptionnel. D'habitude, ça se fait dans des mairies. Et là, on a dû le déplacer en centre de rétention.
Oui, mais les enfants n'ont pas eu le droit de sortir.
En fait, ils nous entendaient par l'intermédiaire d'un téléphone portable. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont le droit de voir ou d'entendre.
C'est pourquoi c'est une dame. Je demandais ça à qui dans la téléphone.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Pascal. Et toi?
Sarah.
Toi, Sarah, tu fais quoi là?
Rien.
C'est pour ça que je pleure beaucoup. J'inquiète. Je ne sais pas comment faire.
Je suis très impressionnée parce que ici à côté de moi, c'est vrai, il y a ma fille, elle tousse. Sa situation du point de vue de santé, elle ne va pas très bien. Psychologiquement, ce serait mieux si on m'apprend et on me met directement à l'avion que de me mettre ici parce que la situation devient de plus en plus lourde, surtout pour les enfants.
C'est Sarah qu'on entend?
Non, c'est Léa.
C'est Léa, votre plus petite fille.
Voix de Gloria, la maman, et des enfants derrière les barbelés, avec la télésurveillance, avec les projecteurs allumés même la nuit. Drôle d'image, drôle d'ambiance, même si on se retient de faire certaines comparaisons et certaines époques, c'est quand même quelque chose de choquant et qui en choque plus d'un. Pas seulement les professionnels de l'indignation. Au téléphone, donc, par téléphone, et uniquement par téléphone, des nouvelles et des voix qui sont à quelques mètres de nous, en France, et qui ont l'air d'être de l'autre bout du monde, d'un autre monde, d'un autre temps.
C'était interdit de travailler, mais je pouvais trouver facilement du travail.
Je voudrais maintenant m'occuper de ma famille.
Je suis déjà... C'est une expression brûlée de cette situation.
Je veux tout simplement
travailler pour gagner de l'argent pour la famille et pour moi-même, c'est-à-dire pour survivre. Mon première préoccupation, c'est le côté psychologique de Sarah, parce qu'elle commence à comprendre un tout petit peu. Et bien sûr aussi pour la deuxième fille, Léa. Je vois Sarah, elle me parle toujours de ses copines ou de ses copains de l'école, parce qu'elle est allée à l'école, et elle me parle souvent de cette époque-là. On a même le cartable. Et elle prend toujours cette cartable, elle se met dans un coin et commence à feuilleter les livres. Voilà, c'est ça que je vois et je trouve que c'est ça mon première préoccupation.
Vous dites quelque chose, Tani.
Tous les jours, j'attends. J'ai peur parce que c'est une semaine décisive. À chaque fois quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, nous, on est très inquiète, on est très anxieux. Et surtout, quand il y a des gens qui circulent pendant la nuit, soit pour des besoins personnels ou d'autres choses, nous, on est toujours inquiète par rapport au bruit qu'on entend dans le couloir. Je ne dors pas du tout.
Et donc, là, si elle retourne en Albanie, elle craint...
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous. Je vais vous répondre avec une expression figurative. On va chez le boucher. S'il nous met dans l'avion, on va atterrir chez le boucher.
Allô, Gloria.
Oui, Pascal.
Aujourd'hui, Gloria, on en est où? 31 jours? 31 jours de rétention?
Oui. Demain, jusqu'à 14 heures.
Jusqu'à 14 heures. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut se rappeler demain?
Oui.
Vers 14 heures midi?
Oui, tu fais sonner. Parce que je ne sais pas, c'est 14 heures, je pense, sort ouais. D'ici. Crois le doigt comme ça.
Vous croisez les doigts.
Oh là là, comment on fait pour dormir?
Vous n'arrivez plus.
Je ne pense pas dormir. Oh là là. Ça va passer, ça va passer, ça va passer.
Gloria Evangelos
n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1.
Il y a la chaise vide à l'école et il y a le portable qui ne répond plus. On se tourne vers Mireille Peloux, qui est de RESF le jour de l'expulsion, parce qu'il y a expulsion de la famille Ali.
Mireille Peloux, vous êtes...
Je suis de RESF à Lyon. Ça fait 32 jours exactement qu'on soutient la famille Ali qui a été arrêtée le 16 octobre. Le portable ne répond plus. La fin de la rétention était aujourd'hui à 14 heures.
Il faut bien expliquer qu'a priori, au bout de 32 jours de rétention, on est libéré. On est plus
au bout de 32 voilà. jours, effectivement, la famille était libre. Aujourd'hui, à 14 heures, libre, ça ne veut pas dire régularisé. Hein. Ils restaient en situation irrégulière, ils restaient sans papier, mais ils étaient mis... en dehors du centre de rétention, aujourd'hui à 14h en théorie. Ce matin, quelqu'un est allé les voir au centre de rétention et donc était devant le centre de rétention à midi quand elle a vu une voiture partir du centre de rétention avec la famille Ali, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'être expulsés. On ne sait pas d'où. Bien évidemment, une fois de plus, c'est une expulsion en catimini, à dernière minute, de façon à ce qu'il y ait le moins de bruit possible, j'imagine. Avec des enfants qui sont une née en France, l'autre pas née en France, mais qui ne connaît que la France, qui attendait de retourner à l'école. Depuis 32 jours, cette famille est en prison. Depuis 32 jours, cette famille vit dans l'angoisse de l'expulsion. Depuis 32 jours, Sarah n'a plus fréquenté l'école, ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas aller à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va leur advenir en Albanie. Enfin voilà, les moyens sont démesurés par rapport à une famille qui n'a rien demandé à personne, si ce n'est que de vivre ici en France. Ça, c'est de l'acharnement, quoi. Je sais pas quel mot on peut employer là maintenant, mais c'est de l'acharnement.
Et puis, il y a ceux qui font le boulot, qui font la besogne, des braves gars qui se lèvent le matin, qui embrassent leurs enfants, leurs femmes, et puis qui s'habillent. Et leurs habits, c'est un uniforme. C'est un uniforme. Ce sont des policiers qui, ce jour-là, font ce boulot-là. Le boulot de reconduire les familles, c'est ce genre de famille. Et les enfants de 18 mois, de 3 ans, qu'il faut réveiller le matin et qu'il faut attraper et qu'il faut mettre dans des véhicules jusqu'à des avions qui les rembarquent chez eux. Alors, parmi ces gars-là, il y en a à qui ça plaît qu'à moitié. À moitié seulement. Laurent.
Donc, j'ai exercé la fonction d'escorteur de 2003 à 2006. Donc, lorsque j'effectuais ma fonction d'escorteur, Donc j'étais commandé la veille pour une mission le lendemain, donc je me rendais dans un aéroport lorsque j'étais commandé. Nous expliquions à la personne expulsée que nous étions là en fait pour la ramener dans son pays suite à une instruction du gouvernement.
Vous étiez habillé en tenue de policier ?
Non, les missions de reconduite à la frontière s'effectuent en tenue civile, puisque nous sommes policiers en France, mais lorsque nous sortons du pays, nous avons aucune autorité dans les pays où nous nous rendons. Nous ne pouvons pas nous promener en uniforme. Ça permet de voyager le plus anonymement possible. Alors, nous montons les personnes à bord des avions, nous les montons menottées ou attachées.
Mais ça, Laurent, expliquez-moi justement, parce que le cas d'un jeune Éthiopien qui est décédé, étouffé, parce que justement, pour pas qu'il crie dans l'avion...
Personnellement, lorsque j'effectuais ces missions d'expulsion, et que la personne avait les menottes et avait sa ceinture de sécurité sur son siège passager, personnellement, quand la personne commençait à être violente et à crier, moi, je m'éloignais pour que les autres passagers remarquent que nous ne touchons pas la personne. Alors, le seul maître à bord de l'avion, c'est le commandant de bord, et c'est lui qui décide si nous pouvons continuer la mission ou si nous devons descendre de l'avion. Ça m'est arrivé de souhaiter que la personne crie, se roule par terre pour descendre de l'avion parce que ces personnes ne méritaient pas d'être expulsées. Ce sont des personnes qui se conduisaient extrêmement bien. Bon, leur seul délit, c'était de ne pas avoir de papier et de travailler clandestinement. Et encore, comme on est soumis à un objectif de 25 000 pour l'année 2007, je pense qu'on ne regarde plus vraiment les dossiers au cas par cas et qu'on... On prend n'importe quelle personne qui n'a pas de papier sans se soucier de sa situation sociale, familiale, et on l'expulse pour atteindre un chiffre et pour mettre un bâton dans une case.
C'était un avion blanc. Privé.
C'est primitif, juste.
C'était un petit avion. C'était un petit avion. Quand j'ai demandé à la dame policière, comment vous avez trouvé cet horaire? Parce que vous avez dit avant qu'il n'y avait pas un avion, et elle m'a répondu.
Dhe më tha ajo gruaja që ne jemi nga Parisi dhe kemi ardhur posaçërisht për vu, kemi ardhur vetëm për juve, se ne kshu punojmë tashisa, deri më 31 vjetor, sa që e ka vënë Sarkozia, ne kshu punojmë sa.
Elle m'a expliqué que on est venu de Paris pour vous, parce que jusqu'à 31 décembre, nous on fait de tels vols réguliers pour rapatrier des personnes. Je pense que c'est une politique déjà commencée par le président Sarkozy. Et il m'a expliqué qu'on est venu de Paris à Lyon pour vous, exprès. Et puis c'est direct Lyon-Tirana sans escale.
Au départ, on pense que on va découvrir d'autres pays, d'autres populations, d'autres civilisations. Et on s'aperçoit très vite que c'est un travail qui est assez ingrat à effectuer, puisque on peut être amené à expulser des gens qui mériteraient de rester ici.
Vous pouvez m'en parler justement?
Alors c'était une personne que nous devions conduire à Amsterdam et mettre dans un avion depuis Amsterdam, la mettre dans un avion pour l'Amérique du Sud. Donc cette personne, c'était une mère de famille qui était expulsée avec sa petite fille de 8 ans, également son fils qui devait avoir environ 5-6 ans. Et donc là, je peux vous dire que ça vous cause un réel problème de conscience quand vous voyez la maman qui ne comprend pas ce qui se passe, quand vous avez la petite fille qui vous sert d'interprète, une petite fille qui est bien intégrée dans la société française, qui parle couramment le français, qui va à l'école, une petite fille de 8 ans qui s'occupe des papiers de sa maman, tout ce qui est administratif, et cette petite fille qui vous demande « Mais pourquoi monsieur ?» parce que cette petite fille ne comprend pas pourquoi on l'enlève. Elle est arrivée ici en France toute petite, on l'enlève de son école, elle a ses camarades, ses voisins, ses amis, sa maîtresse, et là elle ne comprend vraiment pas pourquoi les policiers l'expulsent. Donc là je peux vous dire que vous vous sentez très très mal. J'ai des enfants et à l'époque de cette mission j'avais une petite fille du même âge. Et là, je pense que ça ne fait pas partie vraiment des attributions de policiers d'emmener une petite fille comme ça avec sa maman. Ça, c'est expulser des enfants, c'est un sale boulot. Un sale boulot.
La police, c'est la police, ils font leur métier.
Allons, Dédé, reste tranquille.
Il y avait 6 policiers hommes et 2 policiers femmes, donc il y avait 8 policiers en tout qui nous accompagnaient. Ils nous ont demandé de... Est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes? Parce que dans l'avion, vous n'avez pas la possibilité de faire les besoins naturels. Ils ont contrôlé mon mari. Ils ont lié les mains. Quand j'ai monté dans l'avion, ou même pendant les escaliers, en train de monter, j'ai commencé à pleurer. Et la petite fille, Sarah, elle m'a dit, pourquoi tu pleures, maman? Tu as peur de l'avion? Mais c'est chouette de monter dans un avion.
C'est des événements de votre vie en tant que policier que vous ne pouvez pas oublier. C'est des choses qui vous marqueront toute votre carrière.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
Moi, j'ai quitté ce service.
Vous êtes arrêté de faire ce boulot-là?
Oui, j'ai arrêté d'effectuer ce travail. Et toute personne normalement constituée... Je crois que c'est la seule solution et je crois que de plus en plus... Alors, effectivement, il y a des criminels, des gens qui sont rendus coupables de délits très graves ou de crimes. Ils n'ont pas à rester en France, mais il y a d'autres personnes qui mériteraient qu'on s'attarde sur leur dossier et qui mériteraient de rester en France. Je pense que la politique de l'immigration est devenue aveugle. Si vous avez un minimum de conscience et un minimum de réflexion, lorsque vous y pensez, vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? C'est ce que vous dites.
C'est ce que vous êtes dit, en tout cas.
Moi, j'ai fait une connerie.
Alors évidemment, Laurent ne s'appelle pas Laurent. Et vous l'entendez un peu, sa voix est déformée, bien évidemment. Voilà, quelqu'un avec un uniforme est doué d'une conscience, il n'est pas le seul à savoir et à comprendre parfaitement qu'il s'agit d'un très sale boulot. Gilles Viard, lui, il est secrétaire adjoint du syndicat SGPFO, la police, et il faut savoir un petit peu ce que ça coûte, ces expulsions, hein, de 15 000 à 25 000 euros par personne, soit si les 25 000 expulsions sont atteintes, ce que nous espérons tous, bien évidemment, il y a quelques semaines encore, très court, eh bien ça fait entre 375 millions et 500 millions d'euros. Pas mal, hein? Et c'est ça la croissance.
Fixer le quota à 25 000, ça veut rien dire. Alors demain, si on... Imaginons qu'au 31 décembre, on n'en est que 23 000, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller interpeller, entre guillemets, les 2 000 restants? Ou imaginons que si on en a 27 000, on va les relâcher? Enfin voilà, quoi, ça fait plus sourire, malheureusement, qu'autre chose. Mais c'est d'abord des drames humains. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle de quota, surtout pour ce qui est de la lutte contre l'immigration clandestine. Parce que bien évidemment 25 000 c'est quand même un chiffre conséquent. Et puis 25 000, mais combien d'interpellés pour en arriver à 25 000? Ça aussi c'est une question un peu à se poser. c'est malsain. Puis en plus, on voit, bon, c'est pas des délinquants, hein, c'est pas des gens qui ont commis un délit, voire un crime. C'est des gens tout simplement qui vivent une détresse, un grand drame humain dans leur pays d'origine et qui ont décidé de tout plaquer, quoi. On voit dans leur regard la détresse, une espèce d'incompréhension parce que les réseaux mafieux justement leur ont peut-être promis l'Eldorado. Et puis ils échouent là, pays des droits de l'homme, derrière des barbelés. De toute façon, ce centre de rétention administrative, c'est véritablement une verrue. Maintenant, bon, voilà, il y a encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, il y a une politique mise en place par le président de la République. Le ministère de la Justice assurait ce genre de mission, par exemple appeler les retenus s'ils étaient convoqués devant la justice, les appeler pour tout simplement déjeuner, voire dîner, la correspondance, les avocats, la famille, les visites de famille. Et là, depuis un certain temps, le ministère de l'Intérieur a externalisé cette mission et a donné cette mission à une boîte privée, à une société privée. Alors là-dessus, le SGP dénonce ce genre d'externalisation parce que c'est vrai que si on commence à privatiser ce genre de mission, là on dérape. On va vers une espèce d'industrialisation de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est pas souhaitable parce qu'encore une fois, ça doit rester la mission régalienne de l'État. De toute façon, c'est simple, hein, 25 000, c'est quand même beaucoup. Surtout que 25 000, c'est peut-être 110 000 interpellations à la base. Et puis voilà, faut se donner les moyens de sa politique. Je pense que le ministre a les moyens de sa politique. Et fait en sorte de l'appliquer et d'arriver au 31 décembre à 25 000. C'est peut-être pour cela que le ministère de l'Identité nationale a décidé d'affréter des avions privés ou de vraiment ne faire des avions, enfin, des avions que pour cette mission.
Là, on en a combien déjà ?
Moi, je crois qu'on est entre 18 et 19 000, je crois, 18 000 et quelques.
D'accord, donc il reste encore 7 000, à peu près 7 000 personnes.
Alors, les haut-parleurs, c'est un aspect tout à fait pratique parce que vous avez des personnes qui vivent en communauté dedans, vous avez quand même entre 40 et 140 personnes, ça fait quand même un bruit qui n'est pas négligeable. Quand vous appelez avec un haut-parleur, bon, mais de suite, ça, c'est comme dans un aéroport, hein. Je veux dire, vous avez ça provoque une cassure et les gens écoutent.
Qu'est-ce que vous gardez en tête ?
Cette petite fille nous a montré au cours de ce voyage ses dessins, ses cahiers d'école, etc. À partir de ce moment-là, vous réfléchissez et vous vous dites, finalement, ce boulot, c'est pas pour moi. C'est ce que je me suis dit. C'est extrêmement difficile. J'effectuais cette mission en traînant les pieds, dès le départ. Nous étions trois escorteurs et nous avons traîné les pieds. Nous n'avions pas envie de les mettre dans cet avion. Nous n'avons pas vraiment d'alternative. Nous avons un ordre de mission, nous avons des instructions. Nous sommes obligés d'effectuer cette mission. La seule chose que nous pouvons faire parfois, c'est indiquer à l'expulsé le mode opératoire pour se faire descendre de l'avion.
Vous, Laurent, ça vous est arrivé, ça ?
Ça m'est déjà arrivé de dire à une personne de faire du scandale dans l'avion pour qu'elle ne soit pas expulsée. Seulement, bon, après, j'ai expliqué à cette personne les sanctions qu'elle encourait. Mais à ce moment-là, un refus d'embarquement est considéré comme un délit et cette personne soit retourne dans un centre de rétention et est renvoyée sur un avion le lendemain ou le surlendemain, ou est présentée à un juge et peut être incarcérée par décision de justice pendant un mois, trois mois, voilà.
Ça arrive, 2 minutes. Je vais venir, quoi, là. Vous allez arriver. Ils ont soif, ils ont faim, il y a la télé qui est tombée en panne, ils ont envie d'aller aux toilettes, donc il est obligatoire qu'ils s'appellent un responsable pour se faire accompagner.
Alors, cette politique d'immigration n'a pas vraiment de réel bénéfice dans le pays même. Par exemple, un Malien qui travaille en France, les statistiques le prouvent, peut faire vivre 25 Maliens dans son pays. Donc, je pense que le seul moyen de régler l'immigration, et c'est l'avis de beaucoup de mes collègues, c'est aider ces pays à la source. C'est-à-dire que au lieu D'expulser des milliers de gens, c'est extrêmement onéreux. Alors, chaque étranger est expulsé par deux ou trois policiers. Donc, lorsqu'on compte le prix du billet d'avion pour les trois policiers aller-retour, le prix du billet d'avion pour la personne expulsée, l'aide au retour s'il y en a une pour l'expulser, les salaires des policiers qui rentrent également en ligne de compte, toute la logistique derrière, je pense que pour un expulsé, on peut parler d'un chiffre de 15 000 euros par individu. Donc je pense que si on aidait les pays à la source à s'industrialiser, à se développer, il y aurait moins de candidats à l'immigration. Moi-même, si je suis policier aujourd'hui en France, si demain on me dit aux États-Unis, ben monsieur, vous allez multiplier votre salaire par 10, je prendrai mes bagages et je partirai avec ma famille aux États-Unis. C'est tout à fait logique.
Tout à fait logique, et pourtant, vous avez compris, Gloria et Ali et leurs enfants, Léa, 18 mois, Sarah, 3 ans après 32 jours de rétention, ont été reconduits en Albanie.
De ma fenêtre, je vois les escaliers qui mènent à la terrasse de la maison. Et la partie en face de la terrasse, de notre terrasse. Et je ne vois pas grand-chose. Quand nous sommes arrivés en Albanie, il y a plusieurs choses que je ne les ai pas prises en Albanie. J'ai pu prendre seulement le chariot pour la petite fille, quelques petits vêtements pour nous et pour les filles, et j'ai laissé quasi la majorité des choses sur place.
Në vend tjetër, domethënë, se s'kisha ardhur unë për qefësaj të vinja dhe të iknjash.
Je ne suis pas venu en France pour des plaisirs, pour des vacances. Mais si la France ne voudrait pas, je ne voulais pas qu'elle nous retourne en Albanie. Je voudrais qu'elle nous envoie dans un autre endroit, mais pas en Albanie.
Shikoj fëmijët, se më kërkojnë gjëra se janë mësuar aty në Francë. Nuk arrin dot të oblesh.
Je suis un peu émotionné de voir les filles ici. J'ai peur de les laisser sortir dehors et je les garde pour l'instant dans la maison et ne sortent pas.
Pardon, Pascal, mais je suis très, très triste. Je suis.
Allô? Gloria. Bon, ça a coupé. On va réessayer peut-être.
Allô.
Allô, Gloria.
Gloria.
Ah, pour nous couper la batterie, ore.
Ah, c'est l'histoire de batterie.
Si, mais est-ce que mi drita pour ta caricua?
Il n'y a pas d'énergie électrique pour charger.
Gloria.
Merci à Gloria et Yandou, Chali et leur fille Léa et Sarah. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Gilles Viard, secrétaire général adjoint du syndicat de police SGP FO. Merci aux enseignants de Fontaine-Saint-Martin et à RESF Rhône. Merci à Laurent, le policier. Merci aussi à Artan Courta qui nous a aidés pour la traduction. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. Et sur ces deux sites, vous pouvez, si vous le voulez, laisser des messages, des appréciations, etc. La technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Stéphanie Coulon, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et puis, vous le savez, lundi, nous partons pour la Colombie. Colombie, la mort facile, les preuves de vie. Réclame.